3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais vu.
Bonjour tout le monde et bienvenue en ce 29 juin 2017, plus qu'à deux mois et demi de Star Trek Discovery, deux, trois mois. Deux mois et demi à peu près, ouais.
Donc, juillet, septembre, trop mois.
Ouais, ben, c'est, on arrive au mois de juillet. Donc, bonjour Marc.
Bonjour.
Chers compagnons de voyage, donc... Oui, on est revenu sain et sauf des États-Unis, avec beaucoup de vidéos, d'audio, de photos et de bons souvenirs, de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. C'était vraiment sympathique.
C'était une fin de semaine de rêve pour quelqu'un pour nous autres.
Là. Ouais. Ben, c'est le fun parce que j'ai vraiment l'impression, fin de semaine, d'être rentré dans la communauté, t'sais, d'avoir mis un pied dans la communauté vraiment Star Trek. Comme tu sais, ben, tu me vois aller sur Twitter, là, des fois j'ai.
Oui.
Je trempe la patte puis j'essaie de m'intégrer un petit peu, mais tu sais, c'est bien le fun Twitter, mais quand tu peux le faire en personne, c'est là que ça clique direct, là, puis tu vois que ça marche, là. Fait que notre amie Mary Beth, que je sais. Fait que là, tu sais, au début, avant qu'on soit là-bas, on se disait, ah, ben, les podcasts, ils écouteront pas, voyons donc, ils parlent pas français. Et finalement, ça a l'air qu'on peut pas trop dire de, on peut pas trop dire de merde parce que elle serait capable de nous entendre. De nous comprendre, en fait. Elle pourrait. Je suis pas sûr. Mais, en tout cas, si t'es là, bonjour Marie-Bette. Et, ben, bonjour à Yann aussi, qui nous écoute, qui a été recruté, dans notre équipe.
Comme collaborateur.
Collaborateur, c'est ça, parce qu'il s'en va à Star Trek Las Vegas, la convention Las Vegas cet été. Donc, j'espère pouvoir avoir un rapport de convention de sa part. Et on va aussi, on est en pour parler, là, pour planifier un voyage, notre voyage à Ticonderoga, donc le grand retour de Parlons Trek encore à Ticonderoga, parce qu'on s'en, on peut pas vraiment s'en tanner, je pense pas. c'est pas mal ça. Donc, la Terre continue de tourner pendant qu'on était parti. Il y a des choses qui se sont passées. Ça a été une semaine très occupée.
Assez, hein? Il y a beaucoup de nouvelles cette semaine.
Ouais, ben, Entertainment Weekly encore qui continue avec ses révélations choc. Donc, on s'attend CBS à donner l'exclusivité de beaucoup de nouvelles à ce magazine, en prévision de leur justement de leur revue physique qui sortait cette semaine. Donc, en fait, bon, le premier gros morceau juteux qu'on a cette semaine, c'est qu'on nous a donné la storyline générale. C'est, quand je dis générale, c'est très général de la série. Donc, évidemment, ça confirme certaines choses qu'on peut s'imaginer. Donc, que premièrement, que Burnham a en effet quelque chose à voir avec Vulcain. Donc, en fait, c'est qu'il s'agissait de la... Je suis pas sûr, on l'avait-tu mentionné? Je pense qu'on l'avait mentionné la dernière fois.
C'est la première humaine.
Ouais, c'est ça. La première humaine à être éduquée sur Vulcain. Donc, elle a passé beaucoup de temps sur Vulcain, mais elle est 100% humaine. Sarek joue un rôle important dans sa vie. Sa vie qui a été complètement planifiée jusqu'à ce qu'elle fasse un choix très difficile qui l'envoie faire sa vie dans un chemin totalement différent. Quand on la rencontre, elle est le premier officier sur le Starship Shenzhou, qui est capitainé par Philippa Georgiou, donc joué par Michelle Yeoh. Donc, et Burnham, et le choix de Burnham, donc le personnage de Sonica Martin Green, auquel ils font allusion, est le choix le plus difficile que l'on puisse faire. Ça l'affecte elle, Starfleet et la Fédération. Il affecte l'univers entier. Ce choix l'amènera jusqu'à un vaisseau différent, le Discovery, capitainé par le capitaine Gabriel Lorca, joué par Jason Isaacs. Et c'est à ce moment-là que ce que Gretchen et Berg mentionnent comme étant le second pilote. Donc, ce qui mène vraiment à croire que le premier épisode va être comme une espèce de prequel qui se passe entièrement sur le Shenzhou, et que le deuxième épisode va être le premier épisode sur le Discovery. Donc, ça va un peu ce qu'on avait entendu, que les décors du Discovery, que le projet coûtait plus cher parce qu'il fallait vraiment construire les décors du Shenzhou, puis ensuite les enlever pour faire les décors du Discovery. Donc, c'est ce qui avait mené à des délais et tout ça. Donc, pour continuer dans l'article, donc en effet, c'est pas le premier Star Trek. C'est le premier Star Trek qui n'est pas mené par un capitaine. Berg mentionne que la joie est dans le chemin, in the journey, dans le voyage, dans l'expérience. Donc, l'avantage qu'elle ne soit pas en charge de la passerelle pour l'instant, vont donner des histoires qui sont d'un point de vue très différent. C'est un sentiment de fraîcheur parce que on n'est pas sur la passerelle en tout temps et que nous avons accès à plus d'endroits sur le vaisseau. Donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire que peut-être qu'à la fin de la saison, elle deviendrait capitaine, ce qui ferait quand même du sens. Qu'est-ce que t'en penses, Marc?
Ben oui, ça a du sens. Ben, peut-être pas, quand même. Tu sais, l'histoire, c'est quand même intéressant que ce soit la vue d'un second officier. On va voir ce que ça peut donner.
Ça pourrait être un syndrome Riker.
Peut-être. On sait pas, hein. C'est peut-être Riker n'est pas le premier qui veut rester First Officer.
Ouais. Donc, il est mentionné que les Klingons seront...
Ils sont belliqueux.
Oui, ils seront... Deux secondes.
Ah. On dirait que t'es tombé.
Non, c'est parce que j'ai fermé ma fenêtre.
OK.
Donc, que les Klingons... On mentionne que les Klingons seront très impliqués cette saison-ci et qu'ils ne seront, comme tu disais, belliqueux. En addition, Entertainment Weekly a demandé les plus grosses influences quelles étaient les plus grosses influences pour la nouvelle série. Il disait qu'il y avait... quel film ou série avait la plus grande influence? Et on a comme réponse qu'il y a un petit peu de tout, mais que les scripteurs, que les gens de la writer's room, donc de la salle des auteurs, étaient particulièrement en amour avec la série originale et Next Generation, et parlent beaucoup de l'aspect familial entre les membres de l'équipe, between the cast members, donc on parle pas des personnages, mais vraiment des acteurs. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on mentionne aussi que les films de Nicholas Meyer, bien évidemment, étaient un touchstone, un gros point d'inspiration. Et pas juste parce qu'il est sur le staff avec eux autres, mais parce que sa manière de raconter une histoire est complexe et intellectuelle. Ils disent aussi qu'il y a quelque chose à propos de Star Trek, The Motion Picture, mon film préféré, qui leur parle vraiment. Moi, je suis 100% en bord avec ça. Et quelque chose d'intéressant, c'est que c'est quelque chose qui s'en vient tranquillement dans les nouvelles téléséries, surtout les téléséries digitales à la Netflix. Ça va être filmé en ratio 2 sur 1. Donc, il va y avoir quelques petites barres dans votre écran C'est simplement vraiment à cause qu'il s'est filmé dans un, ce qu'on appelle en anglais un aspect ratio qui est un petit peu plus cinématique. On parle, je sais qu'entre autres, il y a pas Game of Thrones, mais House of Cards qui a été filmé dans ce ratio-là.
Permet d'avoir un grand champ d'action à l'écran.
Ouais. Donc, ben justement, à la passée de l'Enterprise Day, si on regarde la série télé, il n'y avait pas énormément d'espace pour cadrer parce que c'était un format 4:3, donc un format relativement carré. Donc, il y avait déjà pensé au début mettre des consoles sur les côtés, là, parce qu'il y avait les espèces de panneaux en bois là, au début, là. Mais en fait, ils ont décidé de ne pas le faire parce que, étant donné le ratio 4:3, ben, ce serait comme perdu. Ça ne servirait pas à grand-chose. C'est pour ça que ces consoles-là ont été faites pour Star Trek Generations, qui, lui, était filmé en widescreen, donc en espèce, ben, pas du 16:9, mais en tout cas un aspect cinématique. Donc là, on pouvait vraiment se permettre quelque chose de plus large, d'en avoir plus dans l'écran. Donc les deux consoles qui étaient planifiées au départ ont pu être mises là. Donc ils misent vraiment sur l'aspect cinématographique. Et c'est ça qu'ils ont mentionné aussi, que les films de J.J. Abrams ont été une inspiration peut-être au niveau... on regarde ça pis, au niveau du design un peu, puis en même temps, on peut pas les blâmer. En même temps, ça fait une espèce de continuation de ce qui était montré dans Star Trek, dans le premier Star Trek en 2009 avec le Kelvin. Fait que moi, si ça suit un design similaire, moi, je vais être bien content.
Moi aussi.
Donc, ça, c'est la première... Ben, je dirais bonne nouvelle. Là. Au moins, c'est des nouvelles. C'est des nouvelles intéressantes.
Ouais.
C'est quelque chose après des mois à nous sortir ça au compte-goutte, puis pas grand-chose. Puis là, c'est...
Ça rentre.
Ça rentre. Jonathan Frakes, d'ailleurs...
Justement, tu parlais de Riker.
Ben, oui, on parlait de Riker. Donc, Jonathan Frakes, Riker, qui rejoint la liste des réalisateurs pour Star Trek Discovery. Donc, ceux qui ne savaient pas, en effet, il a demandé à... ça, c'est quelque chose... Dans Star Trek Next Generation, les producteurs n'avaient pas trop de misère à accommoder les acteurs qui voulaient apprendre comment devenir réalisateur. Mais il fallait qu'ils suivent les gens... Il fallait qu'ils suivent les réalisateurs, il fallait qu'ils shadow de près pendant des semaines... Fallait qu'ils apprennent, fallait qu'ils démontrent une véritable envie, et non pas juste pour le prestige là, de la chose. Là. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, d'acteurs des séries de Star Trek qui sont devenus réalisateurs par la suite. C'est grâce à cette initiative-là. Je pense surtout à LeVar Burton aussi, et celui qui faisait Tom Paris et Belana Torres. Ont aussi pas mal fait leur premier pas là, en réalisation grâce à ces initiatives-là.
Mmh. Jonathan Frakes a toujours quand même fait un très bon job sur tous les épisodes qu'il a été. Hein.
Donc, si on mentionne, dans Next Generation, il a fait les épisodes de The Offspring, The Reunion, The Drumhead, Cause and Effect, The Quality of Life, The Chase, Attached et Sub Rosa. Dans Deep Space Nine, il a fait The Search, Part 2, Meridian et Past Tense, Part 2. Star Trek Voyager, il a fait Projection, Partuition, Prototype. Et il n'en avait pas fait pour Star Trek Enterprise. Ah, je suis un peu étonné. Au niveau des films, il a fait Star Trek, évidemment, Star Trek First Contact, qui était son premier long métrage. Et il a fait aussi, par la suite, Star Trek Insurrection. Et, petite note, il a aussi réalisé le jeu vidéo Star Trek Klingon, qui était, je pense qu'on avait parlé une couple de semaines, qui était un film interactif sur CD-ROM à l'époque, en 96. Il a par la suite réalisé des épisodes de Roswell, Twilight Zone, il a réalisé le film de Thunderbirds, un épisode de V. On l'a récemment, il y a dans Leverage, Castle, Burn Notice, il a fait un Agent of S.H.I.E.L.D., Falling Skies, Finding Carter, Hit the Floor, NCIS Los Angeles, The Librarian, et plus récemment, très intéressamment, The Orville. Donc, l'épisode 1, le cinquième épisode de la première saison de The Orville. Donc, on ne sait pas encore c'est quel épisode qu'il va tourner pour Star Trek Discovery, mais j'imagine que puisque la nouvelle vient de sortir, ça risque d'être autour du 10 et 12e épisode, là, quelque chose comme ça, parce que ça semble être à ça qui est rendu, selon mes calculs, très, très peu scientifiques.
Mais en parlant de Jonathan Frakes, il a l'air à aimer ça, à qu'on devine où ce qui se trouve, hein,
sur Twitter. C'est son petit jeu, là. D'ailleurs, ça avait monté en... Justement, quand il avait montré une photo, genre, d'une fenêtre...
De The Orville, ouais.
Là, puis le monde disait, ah non, c'est Discovery.
C'est Discovery.
Ouais, c'est ça. Au moins, maintenant, je veux dire, je peux arrêter de faire mon rabat-joie, puis je suis content que... Je sais pas si j'avais dit qu'il serait pas là, mais en tout cas, je suis content que...
Faut qu'il fasse partie de la série, voyons.
Fait là, il reste ce serait le fun qu'il cherche, comme je disais, là, Ben Torres ou Tom Paris dans le réalisateur aussi, comme je dis, ça pourrait être sympathique. Ou à la limite...
Peut-être saison 2.
Peut-être. Je sais qu'eux autres aussi ont été très, très actifs au niveau réalisation de télévision. Là. Fait que... Ah! Donc, on avait parlé aussi il y a quelques semaines du roman de David Mack, Desperate Hours. Donc, on n'avait pas de... Évidemment, à l'époque, on n'avait pas de date de sortie pour le roman, puisqu'il était... Le roman était attaché à Star Trek Discovery. Mais maintenant qu'on a une date pour Star Trek Discovery, on peut dire, ils peuvent annoncer que le roman sera lancé le 26 septembre et que ce sera suivi d'une BD chez IDW. Donc, le roman sera disponible chez Amazon, en ce qu'on appelle Large Paperback, sur e-book et en audiobook non abrégé chez Audible. D'ailleurs, Kristen Beyer, qui est sur l'équipe d'écriture de Star Trek Discovery et qui a été une écrivaine pour les romans de Star Trek Voyager, a été attachée à David Mack pour l'aider dans l'écriture du roman. Et le comic, lui, sera écrit par Mike Johnson et Kristen Beyer. Donc, et on mentionne que le comic sera très près de l'émission, donc... sera, il dit en anglais, closely woven into the show, donc ce sera tissé dans l'émission. Donc, à ce que je sache, Desperate Hours n'est pas une adaptation du pilote, mais bien un roman. J'imagine qu'il va être les origines de Michael Burnham, peut-être, son temps sur Vulcain, son temps sur le Shenzhou. C'est mon bet, c'est mon pari là-dessus. Une nouvelle qui est sortie aujourd'hui sur Twitter. On va avoir droit à un premier panel à San Diego Comic-Con qui est 100% Star Trek Discovery. Donc, les gens de l'équipe et les acteurs seront présents pardon, pour un panel le 22 juin à 2h30 p.m. Au ballroom numéro 20, ce qui fera en fait justement le premier panel Star Trek Discovery ever. J'ai hâte de voir. Non? Ça fait que là, on va probablement avoir justement un trailer peut-être plus axé pour les fans, plus de révélations. Parce que là, le 22 juillet, là, c'est dans un petit peu moins d'un mois.
Alors, si quelqu'un va être à San Diego, on aimerait savoir ça va être long un petit tournage.
Ça va être, la file va être très longue généralement pour les panels à San Diego Comic Con.
Alors, surtout Discovery, ça devrait être l'enfer, là. C'est ce qui est le plus attendu.
Non, c'est pour ça que je suis pas nécessairement attirance pour ces grosses conventions-là, parce que tu parles de plus clair de ton temps en file d'attente.
Moi non plus, mais je vois les images.
Ah oui, ça, ouais.
C'est ça que je veux voir, mais je m'en fous de la file d'attente, je vois les images.
Sinon, une nouvelle triste. Nouvelle un peu dommage. Doug Jones s'est blessé durant un tournage sur Discovery. Donc, Doc Jones devait faire une apparence à Fanboy Expo au Tennessee, mais il a dû canceller à la dernière minute. Il a posté une vidéo sur Twitter. Il a expliqué que c'était à cause d'une scène d'action très exciting. Ben, je veux pas dire excitante parce que ça n'a pas la même connotation. Très enlevante. Donc, une scène d'action très enlevante. Il a fait un petit quelque chose à son épaule. Donc, il devra rester à Toronto pour soigner cela. Donc, médecine canadienne.
Ça ressemble à une clavicule.
Mm-hmm. Donc, on va lui citer un prompt rétablissement et pas trop de délai. Quoique là, ils sont probablement rendus dans les épisodes de la deuxième batch là, qui vont être en janvier. Fait que ils ont le temps de se reprendre, je pense, au niveau du tournage. Ben, ça fait penser à Harrison Ford qui s'était blessé. Écoute, là, il s'était blessé, il a fait son accident d'avion. Il s'est fait rentrer. Il y a eu un accident avec une des portes je pense qu'il y a une porte qui est tombée dessus dans le tournage de Star Wars. Ce gars-là magané, ça n'a pas d'allure. Donc, au moins c'est moins grave que ça. Ça n'a pas l'air trop grave. Je pense qu'il va bien s'en sortir, le monsieur Jones. Sinon, quelque chose de très intéressant. Donc, un article du Toronto Star qui mentionne le marché grandissant de la production télévisuelle dans le secteur de Toronto. Et ils ont mentionné une discussion à propos de Star Trek Discovery qui est tournée au Pinewood Studios à Toronto. Je pense que c'est sur le bord d'une rivière, faudrait que je revérifie, ou du lac. Il note que, bon, c'est filmé sur le plus grand, en français, c'est soundstage, le plus grand plateau de tournage disponible. Donc, un qui était précédemment utilisé pour des films comme Pacific Rim, Suicide Squad et Total Recall. Donc, on parle du Total Recall, le remake. Et un rapport de Pinewood Studios indique que des gens qui travaillaient sur la production prenaient beaucoup de soin à mettre les mots Starfleet Command en très grandes lettres sur le pavé. Donc, derrière eux se trouvait un décor gris très imposant, très militaire, représentant les bureaux de la Fédération. Donc, on se rappellera évidemment que les bureaux de la Fédération... Ben, non, en fait, là, on sait pas, parce que là, c'est probablement Starfleet, mais dans l'article, ça dit Fédération, mais on sait que c'est deux choses différentes. Mais ceux qui se rappellent, évidemment, Starfleet est basé à San Francisco, puisque c'est tourné à Toronto. Donc, j'espère au moins que ça va rester à San Francisco dans l'émission. C'est probablement là aussi qu'on va voir Admiral Anderson, joué par Terry Serpico. Ceux qui savent pas, donc, entre 1990 et jusqu'aux années 2000, c'était le Tillman Water Reclamation Plant à Van Nuys qui était utilisé pour le visuel extérieur de Starfleet Headquarters. Donc, j'ai hâte de voir ça. Hein, Marc?
Ouais. J'étais en train de te vérifier où était le Pinewood. C'est à côté du lac Ontario, je trouve.
Ouais. C'est ça, lac Ontario. Donc, c'est ça, c'est sur le bord. C'est pas loin des quais, en fait.
Ouais. Ensuite,
Star Trek. Ouais, ben c'est ça. Hey, mon Dieu, excuse-moi, j'étais parti dans la lune, là. Hein? il y avait les Saturn Awards très récemment. Et en fait, Star Trek Beyond a gagné le prix pour lequel il avait été snobé aux Oscars, donc meilleur maquillage. Cependant, il n'a pas gagné dans trois autres catégories dans lesquelles il était nominé. Donc, on parle de meilleur production science-fiction. Le gagnant était Star Wars Rogue One. Le meilleur acteur, Chris Pine, est en nomination. Le meilleur acteur était gagné par Ryan Reynolds dans Deadpool. Et le meilleur acteur de soutien, Zachary Quinto, qui était en nomination, a été dépassé par John Goodman dans 10 Cloverfield Lane, qui lui aussi était une production de J.J. Abrams.
Mais quand même, John Goodman, il est, wow, il est intense dans ce film-là.
Ah, j'ai pas vu encore.
Tu l'as pas vu, c'est, ça vaut la peine.
Ok, je vais checker ça. Sinon, pour les fans de Ferengi, justement, pour nos amis français, c'est pas trop loin de chez vous. Donc, Armin Shimerman va apparaître en tant que Quark pour la première fois en 19 ans à la convention Destination Star Trek à Birmingham, en Angleterre, en 2018. Donc, la convention sera du 19 au 21 au NEC Birmingham. Donc, parmi les invités se trouvent William Shatner, Linda Park, Armin Shimerman, Max Grodelschnik, Harrison Eisenberg et plusieurs autres. Donc, vous aurez noté que les trois Ferengi principaux de Deep Space Nine seront présents. Donc, en effet, ils offriront une photo de famille, en photo op, donc une opportunité de photo avec la famille Ferengi. Donc, moyennant probablement une bonne somme de barres de latinium. Et donc.
Mais moi, en parlant d'Armin Shimerman, il y a une petite nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Il est devenu le tout nouveau professeur de Shakespeare à l'USC, à l'Université de South Carolina. South California, excusez-moi. Oh. Il a annoncé ça il n'y a pas très longtemps sur Twitter.
Ah, c'est bien ça, sérieux. Ouais. Justement, je me rappelle, quelqu'un m'avait déjà mentionné à Toronto quand il était présent. Il était capable de sortir du Shakespeare de sa tête comme ça, sans... comme un bon Shakespearean, un bon thespian, comme on dit en anglais. Donc, j'imagine, Patrick Stewart n'avait pas de misère à sortir du Shakespeare non plus, il faut dire ça. Quelque chose de sympathique un peu, et ça mène un peu à quelque chose qu'on a discuté avec M. James Cawley.
Ouais.
Au cours de notre entrevue, qui sera bientôt disponible. Donc, Will Wheaton, qui a été réuni avec son fameux... il manque des mots en français, c'était cœur, hein? Donc, son rainbow sweater, donc son chandail en arc-en-ciel. Donc, ouais. Au cours du week-end du 20 juin, Will Wheaton a été à Awesome Con, donc dans Washington, D.C. Et il a été réuni avec son iconique chandail. Il a partagé le moment sur Twitter. Il a dit que ça ne lui faisait plus, mais que c'était quand même vraiment cool de voir et de tenir l'uniforme de l'acting ensign Wesley Crusher pour la première fois depuis 30 ans. Donc, la photo est quand même assez sympathique aussi.
Dire que nous, on avait Dominique avec l'uniforme.
Ah oui, c'est vrai, oui. Dom qui était là avec son par-dessus
rainbow sweater.
Rainbow sweater. Quand même. Justement, je disais ça, je parlais de James Cawley, c'est parce que vous apprendrez durant notre entrevue qu'il a été en fait le sujet test pour ces fameux chandails de toutes les couleurs. Parce que James Cawley avait la même taille que Will Wheaton à l'époque. Ce serait intéressant de lui mettre le rainbow sweater now, voir si lui a gardé sa taille. Je serais curieux de savoir.
Il est quand même un bon petit physique. Il est pas grand.
Il est bien shapé.
James Cawley. Tu peux dire ça, hein?
Ouais, mais faut dire, regarde, le, considérant son travail, il faut qu'il reste bien shapé.
Ben, il n'y a pas le choix. Hein.
Contrairement, à moins qu'il veuille faire son Elvis fin année.
Elvis fin, ouais. Il change son registre.
Aïe, aïe, aïe. Bon, moi, hier, ça a tué ma... Ce nouvel-là a littéralement tué la batterie de mon cellulaire. Le script de Star Trek Axanar a été... en bon français, on dit « leaké », donc a été lancé sur les internets par un ancien collaborateur du nom de Terry McIntosh. Donc, Terry McIntosh, en fait, était quelqu'un qui s'occupait de la plateforme Ares Digital, qui était supposée être la plateforme pour gérer les différents rewards, les différents comment dire, tiers de récompense des donateurs. Et tout ça, et il était aussi nommé en tant que co-producteur exécutif ou co-producteur de Axanar. Et c'est quelqu'un qui, apparemment, une mèche un peu courte, disons que c'est pas quelqu'un que tu veux faire chier. Parce que la semaine dernière, Alec Peters a décidé comme de l'attaquer relativement gratuitement sur un des groupes Facebook qui était quand même un groupe qui était ouvert, mais pas ouvert, mais qui était ouvert au public, mais on peut pas écrire dedans, mais on peut quand même voir ce qui se passait dedans. Et c'est pris à Terry McIntosh. Et Terry McIntosh a commencé à lâcher des pages dans une conversation sur le groupe de AXA Monitor. Jusqu'à ce qu'ils disent « Fuck it, je vais lancer le truc au complet. » Et, ouf, j'ai pas eu le temps de le lire encore. J'ai juste lu comme 2-3 pages. Mais c'est du fanboyisme. C'est ce qu'on appelait à l'époque, dans Star Trek Québec, de la super saucisse.
Mais qu'est-ce qu'une super saucisse?
C'est quelqu'un qui fait un... qui réussit à... C'est le plus beau, c'est le plus fin. Il résout tous les problèmes en 2 instants. Tout le monde l'aime. En tout cas, c'est ce qu'on appelle en anglais, il y a vraiment un terme pour ça, c'est vraiment un Mary Sue. C'est quelqu'un qui se projette dans un personnage et qui va faire en sorte qu'il devienne justement tout ce qu'il désire.
Moi, j'appelle ça un tueur d'intrigue.
Ouais! j'ai demandé à deux de mes amis, donc dont Jérôme, qui ont justement un background en littérature et en production de films, de regarder le script et si ça leur tentait de venir à l'émission pour faire partager leurs opinions. Ces deux personnes qui sont très neutres par rapport à ce sujet-là, sont pas vraiment au courant de tout ce débâcle de Axanar, donc on pourrait avoir un avis relativement neutre. Apparemment que Terry McIntosh est en train de travailler à lâcher les informations par rapport aux donateurs. Évidemment, il va anonymiser certaines informations pour le bien justement des personnes qui ont fait les donations, mais ce qui va permettre d'avoir une idée relativement exacte des avoirs de ce que Axanar a reçu au cours des dernières années, jusqu'à son départ. Ce qui risque d'être très intéressant. Je suis très curieux de voir ça. Et apparemment qu'il y a aussi d'autres trucs. Là, présentement, il a relâché quelques bloopers de Prelude to Axanar dans le groupe de AXA Monitor. Il avait demandé s'il y avait de l'intérêt pour en voir plus. Évidemment que les gens ont répondu oui. Et moi, à la blague, j'ai demandé, ben, t'as juste à mettre ça, prends ton dossier, mets-le en torrent, puis ça va finir là. Mais il a dit que c'était déjà fait en quelque part, mais c'était encrypté, tout ça. Disons qu'il attend qu'il y ait quelque chose d'un peu plus qui se passe avant de lâcher tout ça. Vraiment qu'ils se gardent des munitions, j'imagine, pour le. Ah, en tout cas. Fait que on va vous revenir au cours des prochaines semaines avec un un review du script. Ça risque de faire mal au cerveau un peu, parce que, comme je vous dis, mais on va se sacrifier pour vous. Sur ce, on va partir en musique. On va y aller avec quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui qui s'appelle Darmok and Jalad. Donc, c'est inspiré de du fameux épisode de Darmok de Star Trek Next Generation, donc une chanson qui raconte l'histoire de Darmok et Jalad at Tamagra. Donc sur ce, on va vous laisser en musique et on vous revient par là-dessus. On va faire le tour de notre voyage encore une fois, mais on va couvrir, je pense, on va peut-être se concentrer sur couvrir ce qu'on a peut-être fait après le podcast de samedi dernier. Qu'est-ce que t'en penses, Marc?
Après le podcast de samedi dernier, on n'a rien fait pourtant.
Ben
on
non, c'est ça. Donc, vous êtes sur les ondes de puissance maximale. Vous écoutez Parlons Trek. On y va avec Darmok and Jalad. Et on vous revient après la pause.
Darmok on the ocean. Jalad on the ocean, Tanagra on the ocean, Tanagra by the sea, the beast of Tanagra, the beast of Tanagra. Tanagra by the sea. Tanagra by the sea.
Et vous êtes de retour sur Puissance Maximale. Vous écoutez Parlons Trek. Et donc, comme mentionné, on a fait un beau voyage. Toi, moi. Toi, moi, Dom et notre ami
Louis.
Donc, si vous n'avez pas encore écouté le podcast qu'on a fait de là-bas, il est disponible sur Mixcloud, iTunes et Google Play. Donc, où ce qu'on a vraiment parlé de la visite qu'on a faite des lieux avec Michael Okuda, Denise, ainsi que Doug Drexler. Cependant, il s'est quand même passé des choses après, là.
Ben oui.
Donc, ben, premièrement, on a eu Mike, Denise et Doug en entrevue. On va pouvoir partager ça avec vous au cours des prochaines semaines. Je travaille présentement à la transcription, que je vois la traduction aussi. Mais je vous promets, Est-ce que j'ai, celle-là, j'ai vraiment intérêt à pas le manquer parce que si je ne distribue pas, on ne donnera pas de passe-presse pour Trek on the Road. Donc, c'est vraiment...
Surtout ouais. Ce que j'ai aimé de ton entrevue, c'est qu'à la fin, quand tu t'es fait dire que tu étais le spécialiste des questions non conformistes.
Ah oui, ben, je m'en
rappelle. Oui, tu t'as pas entendu celle-là? Si je me viens pas, ça vient de Mary Beth.
OK. Ben, c'est le fun. Ben, justement, moi j'essaie toujours de trouver un angle intéressant à approcher.
En tout cas, j'ai hâte que nos auditeurs entendent ta première question déjà là, ça va être quelque chose. Ça donne le ton là, tout de suite.
Oh oui, ben c'est ça. Ben, tu connais notre podcast. C'est sûr, t'es dessus.
Ben oui, je le connais.
On est à la bonne franquette. On se prend pas pour personne d'autre. Je pense que j'essaie de partager ça avec ceux gens. Faut dire, c'est quoi ma... Les entrevues, je suis pas encore habitué d'en faire trop. C'est un peu dur pour moi de me regarder parce que j'ai toujours l'air un peu étrange, mais ça a l'air que bon, les autres apprécient quand même, donc...
Mais tu es étrange, dis.
Je le sais. Je le sais que je suis étrange, mais ouais, c'est ça. Le monde m'aime
parce que je... quand même comme ça, c'est ça.
C'est ça. C'est vrai, puis on a rencontré des amis de Trek Core. On a fait une petite entrevue
avec Kylie, qui
avait un beau livre à propos de la restauration de l'Enterprise originale qui est au Smithsonian. On a parlé un petit peu de Trek Core.
On a rencontré nos amis de Star Trek Online.
Star Trek Yard, Star Trek Online, qu'on a reçu dans notre... Notre humble demeure. Deux jours de suite pour les gens de Trek Yards.
Ouais.
On a fait notre fameux. Donc, j'ai vraiment hâte. Je vais essayer de monter l'épisode pour mardi prochain. Celle-là, c'est pas trop compliqué. Donc,
Super dégustation de Mountain Dew.
Super dégustation de Mountain Dew. Évidemment, mon micro était soit mal branché ou c'est le fil de ce micro-là qui était. Pour là que je check. Mais on m'entend comme un peu cacane. Au moins, on m'entend pareil, mais juste qu'on m'entend comme de loin. Fait que, mais au moins, on entend tout le restant du monde, on l'entend bien. Fait que moi, je suis content.
Moi, je suis content que j'ai appris que j'étais un bon
mixologue
de Mountain Dew.
Ouais. D'ailleurs, notre ami Thomas Malone, qui est un des lead artists pour Star Trek Online, qui a vraiment géré la dégustation comme une dégustation de vin avec toute la classe que ça nécessitait. Donc, on se nettoyait la palette, on décrivait la couleur, on allait déceler l'arrière-goût, on comparait, on lisait le vintage. C'était drôle. Moi, j'aimais justement comment qu'on se prenait au sérieux. Là. Sans trop le prendre au sérieux, mais tu sais, c'était... Il y avait un certain gravitas à tout ça, là. Donc, ensuite, on s'est posé quelques questions de ma fameuse navette. Je m'en suis très bien sorti, je suis très fier. Et ensuite, on a parlé un peu, je pense qu'on a parlé un peu de la visite. Voilà que je me réécoute. Mais non, ça a duré à peu près une heure. Donc, celle-là, je suis pas sûr que je vais la traduire, par exemple. Donc, c'est pour anglophone seulement. Désolé. Traduire une heure de contenu, je suis pas assez. À moins qu'il y ait quelqu'un qui se porte volontaire pour me faire plaisir. Mais malheureusement, ça va être un petit peu trop dur pour mon emploi du temps. Sinon, on avait un souper par la suite après l'entrevue avec Michael et Denise qu'on a eu vers 6h du soir, 6h30. Ben, vraiment, ils nous avaient laissé entrer vraiment médias seulement pour prendre des photos. Faire un tour sans guide, superviser quand même, mais tu sais...
On avait quand même... on pouvait tout faire, là. Pas toucher, là, mais...
Ben, il y a quelques trucs qu'on peut toucher quand même, là. c'est ça. Donc, ensuite, on a eu l'entrevue. Ensuite, on a eu le fameux... On a eu un souper avec donc les invités. Donc un bon poulet, une patate, quelques légumes, de l'alcool. C'était très
sympathique. Sérieusement, on dit souvent, eux autres, ils l'ont l'affaire, les Américains, mais je pense que c'est le meilleur souper avec la quantité de personnes qu'il y avait que j'ai mangé dans toute ma vie.
Ah ouais?
À tous les parties que j'ai eues, soit les parties de Noël ou avec mes emplois, j'ai tout le temps eu des repas qui sont tièdes ou froids. Là, on avait un repas chaud qui était quand même très bon.
Wow.
Malgré le pain qu'on pouvait faire.
Il était un peu pâteux, là.
Il était pâteux et très huileux aussi.
Mais bon, la farce était bonne. Il y avait un peu de farce avec le poulet, c'était délicieux. Ouais. Le dessert est un peu petit. Mais une petite coupe de fraises avec un petit peu de crème, là, c'était correct, mais j'en aurais pris un peu plus. Sinon, ben on a eu nos autographes.
Oui, oui, oui.
Dom a fait signer une jolie lettre. En fait, Dom avait acheté un papier avec un en-tête Star Trek, avec une texture spéciale, et il a retapé à la machine à écrire un email que Doug Drexler avait envoyé pour Star Trek Québec l'année dernière pour les 20 ans du club. Et donc, il a retapé ça à la machine et lui a fait signer la lettre. C'est quand même, je pense que c'est probablement le truc le plus awesome. Il a vraiment pris le temps de dire « Wow, c'est vraiment cool ». Ben, ça faisait un écho aux lettres, aux mémos qui étaient écrits par Gene Roddenberry sur sa machine à écrire avec son papier en tête. Là. Donc, en tout cas pour moi, là, j'imagine que Drexler aussi. Là. Donc, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc, on a vu beaucoup d'encyclopédies de Star Trek signer. Je pense que c'est l'item de base. Moi, j'ai fait signer 3 items. J'avais mon manuel de Next Generation. J'avais mon encyclopédie, celle de 97, je pense, là, celle qui a First Contact dedans. Et le...
Moi, c'est le livre que Louis a fait.
Oui, The Art of Star Trek.
Je pense que le monde l'a aimé, celui-là, nos artistes l'ont aimé.
Oui, d'ailleurs, on a vu le fameux vaisseau en bois que Drexler nous avait annoncé durant la visite. Il avait mentionné que c'était une des personnes avec qui il était ami à la production. Ça, c'est avant que Drexler rejoigne l'équipe de Next Generation. Lui avait montré une maquette en bois de l'Enterprise Day. Il lui avait dit que t'es le premier à voir la nouvelle Enterprise. Puis on a pu voir ça dans ce livre-là. Et sinon, ben, justement, parlant de Drexler, ben, j'ai fait signer par Drexler. En fait, en premier, là, c'est lui qui a fait de la dédicace pour le Deep Space Nine Technical Manual. Mais j'ai quand même fait signer tout le monde, les trois dans mes livres. Michael Okuda a fait la dédicace pour les deux premiers. Drexler a signé par la suite, mais pour le DS9, Michael a vraiment dit non, il faut que Drexler signe celui-là en premier. Ça, c'est une belle attention que je trouve. C'est une très belle attention.
Puis il l'a fait venir, là.
Oui. Puis on s'est mis à parler un peu de vaisseau, puis c'était vraiment sympathique. Il y a du monde qui ont fait signer leur cover de DVD ou de Blu-ray, ce qui est quand même très bien. C'est comme je dis, c'est une occasion qu'on voit pas souvent. Ce monde-là ont tendance à souvent faire les conventions officielles, Creation, qu'on a aux States. Ils vont pas vraiment faire les autres conventions. C'est une occasion relativement unique. Comme je dis, par la suite, on a fait notre podcast. Ben, en fait, on a rencontré nos voisins. Ça, c'est un petit bémol par rapport à l'organisation. C'est que, justement, le fameux souper était mentionné, mais il n'y avait toujours pas de date ni de lieu. Fait que nos voisins, quand on est rentrés à l'hôtel, au motel, nos voisins,
Un cher couple de New York.
Oui, c'est ça. N'étaient pas au courant. Bon, faut dire qu'ils ont mentionné qu'ils avaient oublié qu'ils avaient acheté billets. Ça, c'est déjà une chose. Mais le fait que le moment et l'endroit du souper était resté to be announced jusqu'à samedi. Quelqu'un qui avait acheté le billet le dimanche, il y aurait justement... tu sais, quand tu payes 175$ américains pour quelque chose, puis t'apprends qu'il y avait un souper d'inclus, puis que t'as manqué le souper, ben là, ça revient cher pour la visite un peu, je trouve.
Ouais, ça a été juste le petit point négatif, là.
Ouais, bon, en tout cas. Nous autres, on est diligents et on est responsable et on a fait mais quand même je peux pas l'en vouloir trop mais tu sais ils sont en train d'apprendre, t'sais, c'était des gens qui avant faisaient des fan films, c'était pas des organisateurs d'événements là, donc sont en train d'apprendre puis c'est bien correct. Puis tu sais, je veux dire, nos voisins ils étaient pas outre mesure. Wow.
Non, je pense qu'ils ont bien aimé leur visite du ouais, dimanche
ça.
Matin.
Je pense qu'ils l'ont bien aimé, ils ont trippé quand même. Ils ont juste peut-être trouvé ça dommage, mais tu sais, ils en ont pas fait un cas. C'est pas comme si on avait vu une scène de quelqu'un qui s'est dit ah, j'ai payé 175$, tu sais. Fait moi j'ai pas vu rien de ça, donc.
Sans chialer, je suis sûr que nos voisins avaient quand même les moyens vu le travail qu'ils
ouais,
faisaient.
outre cela, ben ensuite, ben le dimanche, on a vidé les armoires. J'ai mangé du poulet à 10h le matin.
Ah, et surtout qu'on a pogné la partie épicée.
Donc, on a mangé nos restants, donc bacon, poulet, plein de choses.
C'est assez impressionnant, là, les...
Et on a fait une dernière visite, simplement pour pouvoir prendre des photos sur le siège du capitaine.
Ouais, ce qui nous manquait aussi.
Ouais, et on a acheté quelques autres bébés, j'ai acheté un t-shirt et...
Ouais.
C'est ça. Donc, encourageons le marché local. Puis, ben, c'est ça. Ensuite, on est revenu au Canada. Ça s'est relativement bien passé. On avait tout le temps, je pense, de rentrer à la maison.
Ouais. Que... Je l'ai dit dans plusieurs de mes podcasts. Nos quatre autres qu'on a eus,
ouais,
en réalité, plus Mary Beth, agréable. C'était
ouais.
Super le fun. On a pu rendre. As-tu parlé à Stewart à propos de l'entrevue avec
oui.
James?
Ah, ben,
pas trop marqué. Jaloux?
Non, mais ça, ben. Ben, justement, j'ai eu une entrevue avec James Cawley, donc la personne qui est derrière tout ça. Et ce qui était drôle, parce que samedi soir, t'as Stewart, le tracker, qui dit « Ah, bonne chance, ça fait 3 ans que j'essaie de l'avoir en entrevue. » Puis moi, le lendemain, on fait qu'on sort de notre 4e visite.
Et on avait comme dit qu'on l'aurait sûrement pas, alors on faisait pas quelque chose.
C'est ça. Puis il a fallu justement que j'improvise. Là, t'as Mary Beth qui vient, puis ah ouais, viens, tu voulais une entrevue? Ben, c'est là.
OK.
Fait qu'on a bien fait d'y retourner le dimanche quand même. On va se l'avouer, là. Ça a valu la peine. Juste pour l'entrevue avec James Cawley, ça a valu le parce que cette visite-là, on l'a payé au prix normal, donc parce qu'on était fair, puis on voulait pas. On voulait pas faire nos divas. Donc, c'est ça. Donc, ça a valu la peine. Justement, je pense que c'est la première entrevue que j'ai de monter. Je suis pas un expert en vidéo, mais c'est quand même possible. J'ai juste fait une petite... En tout cas,
après, Moi, je l'ai bien aimé, ton entrevue, mais à la fin, t'as-tu vraiment presque dit Jimbo?
Non, j'ai dit Jim.
T'as dit Jim, mais...
Ouais, parce que t'avais...
notre faute, je sais que c'est notre faute.
Parce qu'il y avait Dom qui voulait comme me forcer à appeler James Cawley, en fait, le dit, hey, Jimbo! Et je fais comme, non. Mais évidemment, c'est comme, vers la fin de l'entrevue, j'ai fait, hey, James! C'est comme, je pense...
Ouais, ben, il a fait Kirk, alors Jim, ça passe.
Ouais, on va dire. donc, c'est ça. Donc, j'ai 3 entrevues qui s'en viennent. Donc, une avec James Cawley, une avec le trio Okuda et Drexler, et une autre avec notre ami de Trek Core. J'ai aussi du vidéo de... la cérémonie du coupé du ruban. Et James a été assez généreux pour nous laisser filmer. On n'a pas pu filmer la visite des Okuda, mais on a pu filmer la visite qu'il a donnée le vendredi.
Ouais. Suite au
coupé du ruban.
On voulait dire la même chose.
Ouais, c'est ça. Donc, je vais peut-être pas la montrer en intégrale, mais je vais probablement faire un petit montage pour montrer les bouts intéressants. D'ailleurs, justement, sur le chemin du retour, on parlait d'un petit projet. Donc, peut-être, j'aurais plus pour l'année prochaine, je pense que ce serait plus viable, là, de se faire un petit voyage en autobus. Donc, il faudrait voir pour la location. On essaierait de voir pour la location d'un autobus.
De Montréal.
En partance de Montréal pour aller à Ticonderoga. Peut-être faire une ou deux visites, aller voir un peu autour et revenir à Montréal par la suite. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, j'ai parlé à Mary Beth. Je pense que c'était relativement sérieuse quand elle me l'a dit. Mais elle m'a dit qu'elle me laisserait donner la visite sous sa supervision. Puisqu'elle parle français, mais peut-être pas assez français pour donner une visite complète, elle me laisserait donner la visite et elle serait présente pour répondre aux questions ou à mes questions ou voir si j'oublie quelque chose. Donc,
moi, quand même intéressant. Hein?
Ouais, non, c'est ça. Moi, je risque. Écoute, c'est quelque chose que je veux mettre dans mon CV, ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça couvre pas mal tout ça, donc c'est ça. Puis, comme je dis, mardi prochain, sur notre Mixcloud, iTunes et Google Play, je vais rendre disponible cette dégustation de Mountain Dew. Je compte ça ici. 10 saveurs différentes, plus quelques mélanges.
Ouais.
Ah, c'était quelque chose. C'était quelque chose.
Une augmentation du taux de sucre.
Oh, et de caféine. Ouais. Et d'ailleurs, nos amis de Trackyards m'ont mentionné qu'ils diffuseraient sur leur channel YouTube en format vidéo. Donc, parce qu'on avait enregistré en format vidéo le podcast. Donc, puisque eux autres font plus de vidéos et que nous autres on fait plus de l'audio, ben on se pile pas trop ses pieds, puis nos audiences sont pas vraiment les mêmes. Donc, ça fait juste plus de sens. Donc, on va se faire connaître un petit peu plus, ce qui est bien.
Puis, as-tu remarqué la quantité de nouveaux membres?
Ouais, des likes. On a ramassé beaucoup de likes sur Facebook, donc merci à
presque 30. Ouais, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Espérons que vous nous écoutez.
Ouais. J'espère. Si vous entendez ça, c'est que vous nous écoutez. sur ce, Marc, je vais te souhaiter une agréable soirée. Il est déjà 9h27. Le temps passe.
Moi aussi. Déjà une heure.
Oui. Et,
aurait tellement eu à dire sur notre soirée, mais il faut laisser un peu de.
On va laisser le podcast parler par lui-même, je pense.
Ouais.
Donc, sur ça, on va se quitter sur une chanson de mon groupe favori, Warp Eleven, venant de leur album Borgasm. Donc, la chanson Assimilate This. Donc, vous écoutiez Parlons Trek sur les ondes de puissance maximale. Et on se revoit, on s'écoute, on s'entend, on se parle la semaine prochaine.
Bye.
Au revoir, Marc.
Au revoir, JP. Your soul is your human.
your brain.